Transcodeur Podcast, épisode 7. Le DSL et ses amantes. Enregistré le 30 juillet 2009.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 des Casques d'heure. On enregistre ça le 30 juillet, donc en plein pendant les vacances. D'ailleurs, on s'excuse un petit peu de pas avoir fait des épisodes ces derniers temps, mais entre les vacances de Vincent et les vacances de Vincent, finalement,
tout est de la faute de Vincent.
Finalement, on a retardé l'épisode et finalement il est pas là. Donc voilà, on vient de le virer officiellement des casques d'heure. D'ailleurs, n'utilisez pas XQuickie, c'est de la merde.
Non,
alors on rigole. Donc Vincent est avec sa femme et ses enfants et il avait pas mal de problèmes techniques, donc il nous rejoindra pas aujourd'hui.
Donc on n'a pas le droit de dire qu'en fait il est avec sa maîtresse, c'est ça, on n'a pas le droit de le dire.
Non. Les mecs là, c'est pas parce qu'on est au mois de juillet qu'on va se lâcher comme ça. Ressaisissez-vous.
La probabilité que sa femme écoute le podcast est quand même assez faible, à la limite.
C'est bon.
Donc, ce qu'on va essayer, c'est de vous faire des nouvelles, mais un peu courtes. De toute façon, il se passe pas grand-chose en été en général. Et puis, on voulait faire une petite discussion sur ce qu'on appelle les DSL, hein, qui reste un mystère pour plein de gens, y compris pour moi, jusqu'à ce que récemment, j'ai finalement compris ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on dit en français.
Ouais, on te pardonnera, t'es resté un peu trop éclairique, hein.
Et puis voilà, donc on fera probablement un ping-pong avec Guillaume, entre moi, Guillaume et Antonio, là-dessus. Voilà, donc la première nouvelle, c'est pas super relié à Java, mais on va essayer d'en discuter sous l'angle Java. C'est Google qui annonce Chrome OS. Alors Chrome OS, c'est en gros, ils avaient un navigateur qui s'appelait donc Google Chrome.
Ils ont toujours,
oui. Enfin, ils l'ont pas encore sur Mac.
Si, il y a quand même une version, mais bon, elle est pas encore bien finalisée. Mais
ouais, il y a juste, il y a pas les bookmarks.
Ouais, il y a pas grand chose. Mais t'arrives quand même à surfer, c'est déjà ça. C'est un minimum.
Ouais.
Par exemple, pour utiliser Google Wave.
C'est mosaïque.
C'est à peu près ça. Pour utiliser Google Wave, c'est pas mal parce que c'est pas mal optimisé sur Chrome au niveau rapidité.
Oui, c'est vrai.
Tandis que Firefox, ça rame.
D'accord.
Donc vas-y, je t'en prie.
Oui, donc ils ont fait un nouveau navigateur pour stimuler le marché des navigateurs et puis pour se positionner eux, j'imagine. Mm-hmm. Donc en gros, ils ont repris WebKit, qui est un moteur open source qui est partagé par nos amis d'Apple et de Safari, qui est un fork de navigateur.
Conqueror,
voilà. Mmh. Et puis là, ils se sont dit, on va faire un OS entier qu'on va appeler Google Chrome, qui sera spécialement focalisé sur le marché des netbooks. Donc en fait, c'est les ordinateurs portables qui sont en général autour de 10 à 11, 12 pouces d'écran. Petits, ont une batterie assez correcte, une puissance limitée, et voilà, et qui aujourd'hui sont soit sous du Linux, soit sous un Windows XP.
Antonio, toi, t'es assez content là, de ton netbook là, avec Glassfish et tout ça, tu fais tourner les super trucs dessus. Hein,
je me suis acheté la semaine dernière l'Asus 1005H qui est sorti il y a 15 jours. Il a 1 giga de RAM, 160 gigas de disque dur, et puis un Atom 280, avec une autonomie de 10h30, ce qui est assez bluffant, je dois le dire.
Wow.
Et c'est vrai que je prends le RER 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, et j'ai IntelliJ ID, un JDK 6, et puis Glassfish, et je développe dans le RER, donc c'est assez rigolo.
Mais pourquoi tu prends pas un ordi normal? Pourquoi tu prends pas ton portable normal, en fait?
Mais pour pas qu'on me le vole. Et je prends le RERD, je vais en banlieue sud.
Non, moi, je sais pas, sur la ligne 1 et dans les trains, je suis toujours avec mon ordinateur. Bref. Donc, c'est intéressant. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas tout réécrire à la main. Je me rappelle plus des détails, donc complétez-moi les gars. Mais en gros, Google Chrome, c'est basé sur Linux. Sauf qu'ils vont pas réutiliser le système de windowing classique, donc le X11, ils vont réécrire le leur, et ils vont se focaliser énormément sur la sécurité.
Oui, effectivement. En fait, ils veulent se focaliser sur la sécurité et rapidité aussi. C'est un peu leur mojo. C'est vraiment ce qu'ils disent, c'est que t'allumes, tu bootes, et puis voilà quoi. Et ils veulent vraiment être axés web. Donc, en gros, c'est plus un navigateur qui est sur un OS, mais c'est un OS qui est à l'intérieur de un navigateur quoi. Enfin, ça a l'air d'être assez drôle. Ils veulent voilà, ils veulent
Enfin, c'est pas vraiment
mettre
ça, c'est un OS avec l'appli principale qui est le navigateur et peut-être qu'il y aura un démineur et voilà quoi.
Oui.
Mais c'est
en
vrai que c'est un
fait
peu bizarre de dire que c'est un OS dans le sens où enfin, t'as tout Linux derrière, mais ce qu'ils entendent par OS, c'est vraiment la partie dans le navigateur, quoi. C'est ça qui est assez marrant, en fait. Ça va être un concept assez intéressant à voir.
Bah surtout que à la manière Google, hein, ils te disent que bah en 2009, des OS on en a plein entre les Windows, les Mac, les distribs Linux, etc. Mais tous ces OS-là ont été créés avant le web en fait.
Ouais.
Et eux, ils veulent créer un OS pour 2010, un OS web centrique, donc vraiment orienté web. À voir.
Donc évidemment, ça met l'accent sur leur service en ligne, hein, puisque que finalement c'est l'équivalent de ce que Sun avait misérablement échoué à faire, qui était dire que l'ordinateur était le réseau, quoi. Soit ils étaient arrivés des années en avance, ce qui est probable, soit effectivement, enfin l'idée d'un ordinateur où il n'y a rien de personnel dessus et tout est dans les nuages. Ça va marcher sûr pour un certain nombre de gens. À mon avis, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais à voir.
Par contre, ce qui est perturbant et enfin, ce que j'ai trouvé pas être super super clair, c'est le recoupement entre Google Chrome OS et puis Android.
Android, ouais.
Tu vois, en gros, là, j'ai pas bien compris parce qu'on me dit si c'est un écran 10 pouces, c'est Google Chrome OS, et si c'est un écran 4 pouces, c'est Android. Alors tu te dis bon. Ouais, d'accord. J'ai pas tout compris. Donc je vois pas où ça recoupe Android. Est-ce que ça chevauche? Est-ce que ça remplacera ou pas? Enfin, je.
Mais même eux, je crois qu'ils ont dit c'est normal, il y a de l'overlap. Donc
Ah ouais.
ouais, il me semble avoir lu ça. Je sais pas. Je pense pas que c'était dans l'annonce, dans le blog qu'ils ont mis, mais après coup, je sais plus.
Ouais, mais ça ressemble beaucoup à de la politique d'entreprise
Ah oui, bien
où le
sûr.
manager il n'arrive pas à tuer l'un des deux projets, du coup il y en a deux qui sortent,
Oui,
quoi.
bien sûr.
Ah, d'ailleurs, faut annoncer, c'est un blog, enfin plutôt une entrée sur le blog de un des blogs de Google. Et après, tout le monde s'est enflammé dessus, à savoir, mais finalement c'est que de la press release, hein, il n'y a
Il y a
rien du
rien, on
tout
sait
pour
rien.
l'instant.
Y a pas de code, y a rien. Il n'y a pas un projet qu'on peut tester. Il n'y a rien du tout. C'est juste un
Non.
blog de, je sais plus, il y avait combien, 5 paragraphes, un truc comme ça, tout cassé.
Ouais.
Et c'est tout.
Et là, pouf, et
Et
là,
là,
ça a enflammé la blogosphère,
c'est
comme
le
on dit.
bordel.
Ils sont forts, Google.
Et
Ils
ouais.
sont forts.
Il n'y a que eux qui
Ouais.
arrivent à
Ça,
faire
ça me
ça.
rappelle un peu les tactiques à la Microsoft où on annonce un projet pour tuer la compétition et finalement on le fait ou pas, ou on le fait hyper tard. C'est un peu dommage. J'aime pas trop ces effets d'annonce où on. Bon, ma compagnie le fait des fois aussi, mais j'aime pas trop ces effets d'annonce où on dit ah, on va faire un partenariat, où on va créer un truc, et puis en fait ça arrive que 6, 7, 8 ou même un an plus tard.
C'est un peu comme Java FX, quoi.
Ouais.
C'était il y a déjà il y a plus de 2 ans, et puis ouais, on a un super truc, et c'est toujours pas sec, hein.
Deuxième sujet finalement lié, la chute de IE6, pardon. Moi, ce que j'ai vu juste, c'est qu'il y a plein de blogs et plein de gens qui se disent oui, il y en a marre de IE6, etc. et qui commencent à dire bah, désolé, notre site ne marche plus avec IE6 et encourage les gens à uploader, enfin à utiliser IE8 ou Firefox ou Safari, etc. Enfin, un navigateur moderne.
Non, mais ça, c'était effectivement, il y a eu quelques blogs là-dessus avec des chiffres à la clé, donc il y a pas mal de courbes où on voit effectivement que IE6 est passé sous IE7 et IE8 a rattrapé IE6 début juillet. Donc voilà, en fait, statistiquement, on se rend compte que IE6 est en déclin et que c'est aujourd'hui. Par contre, ce que je ne sais pas dire, c'est si c'est en dessous ou pas de Firefox. Mais en tout cas, entre IE6, 7 et 8, IE6 vient enfin de passer sous la barre.
Sur le graphe que je vois là, c'est genre 16% du marché.
Ouais. Et non, mais il y a la nouveauté avec ça, c'est qu'effectivement, enfin, le gros souci avec IE6, c'était qu'il était plus ou moins compatible avec HTML, donc il fallait faire des hacks et du JavaScript, etc., etc. Donc c'est juste se dire, effectivement, on s'enlève une épine du pied et on va pouvoir faire des sites web un peu plus modernes qui fonctionneront.
J'ai vu un petit message sur Twitter qui était rigolo, bon, qui était en anglais et qui disait à peu près un truc comme ça. Si vous avez un chat qui est né en même temps que IE 6, bon, en fait, il est certainement déjà mort. Donc, IE 6 est tellement vieux. Il comparait ça à la durée de vie d'un chat. Et ben, il y a toutes les chances que ton chat soit mort tellement IE 6 est vieux, quoi. Bref.
Énorme. J'ai trouvé ça rigolo. Ce qu'on voit sur les courbes, là, je mettrai un lien dans les show notes, c'est que bon, IE 6 il descend avec une courbe lente mais constante, et que finalement IE 8 il mange des parts de marché à IE 7.
Ouais.
On voit IE 7 qui diminue et IE 8 qui commence. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est que les gens en entreprise ou l'IT department a dit non, mais on utilise IE 6 parce que c'est trop chiant à déployer, toutes les applis ont été développées sous IE 6, etc. À mon avis, ils sont coincés. Et ces gens-là, ils vont pas migrer tant que l'IT aura pas dépensé pas mal d'énergie à valider les anciennes applications sur le nouvel OS, je pense.
Ouais, certainement.
Malheureusement. Mmh. Au lieu de se dire on va toujours garder l'application, c'est l'antinomie des méthodes agiles. C'est au lieu de dire on va toujours garder finalement l'application aux dernières technologies pour ne pas avoir de problème de migration, ça va nous coûter un tout petit peu de manière régulière. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils frisent à une version de l'Internet Explorer et du coup, ils se créent énormément de problèmes par la suite en disant « Ah ben non, mais on peut plus bouger. On a 10 applis qu'il faudrait réécrire ou migrer. Ça nous coûterait trop d'argent, etc. etc. » Donc, c'est vraiment deux philosophies. En général, c'est malheureusement la dernière philosophie qui gagne, qui est celle de frigider les applis et de ne pas avoir de budget de maintenance finalement pour une appli. Une autre nouvelle intéressante, je ne sais pas si vous avez vu les gars, c'est sur TSS l'équipe des drivers Oracle, les drivers JDBC Oracle qui dit on aimerait savoir ce que vous voulez pour la nouvelle version des drivers Oracle. et c'est assez marrant parce que bon, ils se sont fait un petit peu laminer. En gros, les gens disent on aimerait bien un truc qui marche.
On
pourrait avoir des exceptions qui sont humainement compréhensibles au lieu d'un code à 6 chiffres, etc., etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, les mecs de l'équipe d'Oracle sont rentrés dans la discussion en essayant de se défendre. En fait, ils s'attendaient pas du tout à ce genre de retour, parce qu'eux ils sont dans l'environnement où ils parlent aux clients qui ont des contrats de support probablement assez élevés, etc., etc. Donc ils se rendent pas compte de la majorité des gens qui utilisent le driver Oracle parce qu'ils sont obligés, qui n'ont pas accès au support et qui souffrent de bugs bizarres et variés, divers et variés.
D'un autre côté, au moins avec les messages d'erreur des drivers Oracle, je veux dire, c'est Aura blablabla et c'est facile à chercher sur Google en fait. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal, je sais pas.
Sur la page, effectivement, il y a mille et un commentaires sur ce thread. Ça s'est pas mal enflammé, ouais.
Mais c'est marrant de voir comment ils étaient étonnés
du retour. Ouais.
De la l'agressivité des gens sur.
Mais c'est vrai que c'est aussi, on voit aussi l'attitude différente des gens par rapport aux sociétés qui n'ont pas cette historique, tu sais, open source, communauté, etc. Et également la réaction des développeurs qui s'attendaient pas à ça, au contraire ils disaient putain on est ouvert, on demande et tout, et puis en fait qui sont surpris de pas avoir le même accueil que d'autres dans le monde open source, encore une fois, tu vois, c'est assez marrant à contraster.
Bon, on s'en prend plein la gueule dans le monde open source aussi, mais le truc c'est qu'on est finalement on est habitué, comme disent les Anglais, on a la peau épaisse, quoi.
Ouais, vaut mieux.
Bon, on va passer à la suite parce que finalement les drivers Oracle on les utilise quand on a à les utiliser, voilà.
Quand on
n'a
pas le choix.
Un petit peu de nouvelles sur Java IE, notamment la JSR 303 qui vient de réaliser
330
non, je parle de la mienne avant.
Ah merde, excuse-moi.
Ah bon, tu fais la JSR.
Ouais. On a réalisé la Propose Final Draft 2 qui n'a pas pu passer par le JCP parce que il fallait une licence particulière, et comme nous on voulait la réaliser en ASL, donc l'Apache Software License 2, ben on a un petit peu clashé avec le JCP, du coup ça m'a énervé, donc je l'ai juste réalisé sur le blog. Et puis je passe pas par le JCP, mais bon, sur le long terme, il va falloir trouver une solution.
D'accord.
En gros, le problème, c'est que les licences telles que le JCP les impose, elles imposent de dire on vous donne les droits sur les brevets que l'on a sur la technologie qui vous empêcherait éventuellement d'implémenter la spec si vous êtes un implémenteur, voilà. Et évidemment, ASL n'a pas du tout cette règle-là, puisque dit, ben, faites ce que vous voulez.
D'accord.
Et du coup, c'est là-dessus qu'on clash. Alors, évidemment, les avocats d'un côté, ils disent, ben non, mais ça marche parfaitement. Et l'autre côté, ben non, ça marche pas du tout. Et donc, voilà. Mmh. Et donc, on est au milieu de deux bandes d'avocats. Apparemment, Google a les mêmes problèmes avec la JSR 330, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Allez voir la spec. Allez voir l'implémentation qui est Hibernate Validator 4.0, qui est en bêta 2 en ce moment, qui est relativement stable. Là, c'est déjà utilisé dans JBoss AS et puis dans Glassfish sur nos previews. Voilà pour BIN validation. Et puis sinon, ouais, on voulait parler un petit peu de JSR 330, qui est le at inject annotation. JSR 299, qui est Java Context and Dependency Injection for Enterprise, ou je ne sais plus, peu importe, un nom compliqué comme
Jacques
ça. Donc notre saga Dallas, ça continue, ça s'améliore. Antonio, tu veux nous en parler?
Je vous en parle un tout petit peu, mais pas trop, parce que c'est pas encore public, mais effectivement, a priori, on est peut-être parti sur... repousser un peu Java E6, mais lorsque je dis un peu, c'est 30 ou 40 jours. Hein. Donc on serait plutôt sur un Java E6 qui sortirait fin octobre, début novembre, parce que on reculerait en fait pour prendre la JSR 330 et 299 on board. Java E6 risque de devenir, avec les EJB 3.1, JPA2, BIN validation, etc. Et la JSR 330 et 299. Donc à voir, hein, y a rien de fait encore. C'est pour ça qu'on repousserait, puisque la JSR 330 a été créée il y a peu de temps, et lorsqu'on rentre dans le JCP, on a les JSR ont un cycle de vie avec différentes étapes, comme tu disais, Emmanuel, le PFD, l'early draft, etc., etc. Et tout ça, il faut attendre un certain nombre de jours entre chaque étape. Donc cette JSR est arrivée assez tard, et si on veut qu'elle rentre dans Java E6, il faudrait retarder un petit peu Java E6. Voilà. Mais bon, tout ça, ce sont des rumeurs, comme on dit.
Bon, rien de très grave.
Non, mais le bon signe, c'est que donc Gavin est dans l'expert group. Donc Gavin qui est le spec lead, Gavin King qui est le spec lead de la JSR 299. Moi, les discussions que j'ai eues avec lui, il n'y avait pas de conflit technique finalement. Donc, on a fait un gros patatrac sur non, mais les deux JSR sont différentes, etc. Mais apparemment, tout va bien se passer. Donc, la JSR 299 s'appuierait sur le socle minimal que 330 définirait, notamment les annotations, et après définirait beaucoup plus dans le détail. Beaucoup de choses liées à l'injection pour avoir des implémentations plus compatibles. Mmh. En tout cas, au niveau de compatibilité de Java EE.
Voilà. Bon, on va dire que c'est une histoire qui se finit bien, quoi.
Non, c'est pas fini encore, c'est Dallas, t'es nul, quoi.
Et c'est dans quel épisode
JR, il meurt à la fin, de toute façon.
Ouais, non, mais c'est dans quel épisode
JSR, il meurt.
JR, oui.
Mais tu sais, il y a un épisode où ils se bastonnent les meufs et tout ça là, dans Dallas.
Qui se bastonnent.
Tu sais, la blonde et la brune là, qui se bastonnent. Oh, t'as pas vu ces épisodes-là? C'est terrible dans Dallas. Aïe, aïe, aïe.
Ah oui, avec de la boue en bikini. Oui, effectivement, samedi quelque
chose. Non, ça, c'est les cassettes que tu regardes le soir, ça.
Ah, flûte. J'ai confondu. Bon, séance détente des cascodeurs, on revient aux news, Java.
Ok. Bon, on va vous parler de... Pareil, c'est pas... Ah, un truc dont je voulais parler, Google OS. Il n'y aura pas Java, très vraisemblablement.
Mais c'est aussi pour ça...
Alors, comment on va faire?
Ouais, un des... Tu sais, enfin, Google pousse vachement tout ce qui est HTML5, et donc, ouais. Y compris bah, le... Tu sais, le date, le, comment ils appellent ça, enfin, le stockage local, tout ce qui est JavaScript, les canevas pour avoir des rendus où tu n'as même plus besoin de flash, etc. Donc, qui pousse vraiment au maximum toutes ces choses-là pour finalement bah, se passer de Java, d'Adobe avec son flash, etc. Ils ont l'air d'être assez forts là-dessus au niveau lobbying et puis le temps, l'énergie qu'ils déploient sur ces technologies-là. Donc, enfin, on comprend, je dirais, d'autant mieux leur stratégie derrière HTML5 et tout ça, en voyant bah, les produits qui sortent, comme Google Wave, comme Google Chrome OS. Mais Java, ceci dit, Java, côté serveur, tu en auras toujours besoin. Mais ça ne veut pas dire que, du coup, côté non, appli, voilà, oui. Tu déploies sur ton, je sais pas comment on va appeler ça, enfin, ton netbook Chrome, du coup, tu n'en as pas forcément besoin là. Donc, tu n'as pas forcément besoin de... beaucoup de mémoire, de ressources processeurs, etc. Ça devrait bon, tourner pas mal. Et puis avec leur super moteur JavaScript super optimisé. Bon, c'est encore une JVM aussi, hein, tu me diras. Mais, donc je pense qu'ils s'en passeront Java côté Chrome OS.
Moi, ce qui m'embête un peu là-dessus, c'est que... Alors, je suis un peu biaisé parce que je suis côté Mac et donc un peu habitué aux interfaces assez polies. Mmh. Polish, comment on dit polish?
Ouais, parce que poly, du ouais, coup, parce que t'as des interfaces qui t'insultent, ouais. Toi.
C'est ça, en fait. et en fait, moi, quand je regarde mes applis qui sont démarrées, donc effectivement, mon navigateur, il est démarré tout le temps. Mm-hmm. Non, j'utilise... Alors, Gmail, j'utilise via le navigateur, mais mon email d'entreprise, j'utilise un client lourd.
Ouais.
Là, on est en train de parler via Skype, eh ben, c'est un client lourd. Ma messagerie instantanée, c'est un client lourd parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit rapide, fluide et pratique à utiliser. Moi, je pourrais pas... Enfin, autant les journalistes sont là, mais on n'a plus besoin d'OS, on va vivre dans le navigateur, autant moi, de plus en plus, je réalise que je ne peux pas vivre dans le navigateur.
Bah, et puis aussi, regarde par exemple Google Docs. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas mal pour faire des petits documents, les partager, etc. Mais de là à faire des choses bien léchées que tu peux faire avec un vrai éditeur WYSIWYG de texte, quoi, c'est quand même pas la même chose. Hein. Pour vraiment faire du beau rendu, la mise en page, etc., comme tu veux, c'est quand même encore assez limité, quoi. Tu peux pas tout faire.
Bien sûr, mais n'oubliez pas que tout ça, c'est pas très très vieux. Hein. Word a quoi, 10 ans, 12 ans, 15
oh,
ans, je sais plus.
Même plus, hein.
Google Docs, c'est assez récent. Je pense qu'ils ont fait des trucs assez bluffants, mm-hmm. je trouve. Et peut-être que d'ici 2 ans ou 3, ça aura beaucoup plus de gueule. Moi, j'utilise beaucoup Google Docs, en fait, à cause du mode offline.
Ah.
Parce que lorsque je suis dans le RER avec mon IIPC...
Et que tu te fais bastonner par les gens qui veulent te piquer ton ordinateur.
Ou lorsque je prends mon ordinateur portable dans le train... c'est vrai que c'est pratique d'être sur Google Docs avec Google Gears, donc en mode offline. Tu tapes du texte, tu arrives à la maison, tu synchronises et puis voilà quoi. Et je trouve que c'est assez pratique. Et moi, comme toi, Emmanuel, j'utilise beaucoup de clients riches encore. Mais petit à petit, par contre, je me déporte clairement sur le navigateur. Hein. Et Google Docs est un bel exemple. Moi, je fais de plus en plus de trucs sur Google Docs.
Par exemple, tu sais, un beau rapport de stage ou je sais pas, un truc comme ça, tu le ferais pas dans Google Docs, quoi, pour l'imprimer, etc.
C'est clair, c'est clair. Oui.
Ouais. Et puis l'autre problème, c'est que est-ce que tes clients, ils apprécient que tu écrives le rapport confidentiel dans Google Docs?
Ça, c'est le point qui fait mal, effectivement, parce que tout est hébergé aux US. Alors, je crois que Google va justement faire un truc en Europe. Pour héberger les mails et les documents avec des lois européennes. Mais c'est vrai que quand tu tapes un truc en France sur Google Docs, c'est quand même stocké ou aux States avec, avec leurs lois à eux. Et effectivement, comme tu dis, ça pose beaucoup de soucis.
Et donc là, en fait, ça ne se voit pas, mais je viens de préparer une superbe transition sur le sujet d'après, qui est énorme, que le Google App Engine, en fait, a eu un
coup de chaud. Comment on dit, c'est l'été.
Ah oui, un coup de chaud, voilà. Et donc, ils ont été offline pendant un certain temps notable. Et pas mal de choses, du coup, ont plus marché, notamment le Google Wave, etc., etc. Apparemment, c'était un problème lié sur Bigtable, qui est leur système de persistance distribuée. Mais c'est assez marrant de voir le cloud qui est censé finalement améliorer la disponibilité. Qui, quand il tombe, impacte un nombre impressionnant de personnes.
Ouais, énormément.
Au lieu d'avoir ton entreprise qui ne peut pas travailler, en fait, tu as la moitié du monde qui ne peut pas travailler.
Non, mais pensons global.
Pensons global, là, c'est la pause mondiale.
Mondialisation. Ça, c'est fait. Bah, c'est vrai que, par exemple, là, quand on fait partie des petits chanceux là, qui ont des comptes Google Wave, par exemple. Et,
ou pas.
Ah oui, c'est vrai,
tu n'as pas ton compte Google Wave, Emmanuel.
Google Wave. Pourtant, j'ai parlé à Danji à Java One, là. On a échangé quelques bières ensemble et j'ai pas de compte Google Wave.
Ouais, mais tu lui avais laissé payer l'addition, c'est pour ça qu'il est vert. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, avec Google Wave, ce qui est sympa, là, c'est qu'on peut faire des petits robots qui rentrent dans les conversations, etc. Et en fait, à l'heure actuelle, je pense que ça changera à terme, mais à l'heure actuelle, quand on veut écrire des robots qui interagissent sur Google Wave, il faut écrire des applications Google App Engine, par exemple. Et donc, Wave, ne serait-ce qu'avec tous les robots, tu pouvais avoir aucun robot qui fonctionnait dessus. Et puis, effectivement, là, comme les problèmes qu'il y avait eu sur le Google File System, dont dépend Bigtable, étaient dans les mêmes data centers que tout un tas d'autres services de Google. Du coup, même s'ils ont des data centers redondants aux quatre coins de la planète, malgré tout, c'est quand même pas immédiat de restaurer tout ça, de remettre tout en route. C'est quand même assez énorme, quoi. Donc, App Engine down, un cloud qui est down, ça fait mal, quoi.
Donc, note pour les clients, quand on nous demande 100% de disponibilité...
Même voilà, Google, ils ne peuvent pas le faire.
Voilà.
C'est clair.
Non, mais c'est vrai que recherche, Google Search, il y a eu un problème là, il y a récemment, là, cette année ou l'année dernière, mais c'est vrai que c'est un site qui n'est jamais offline, quoi.
C'est vrai.
C'est impressionnant. Mm. Pareil sur au niveau des nuages et des Google Apps. En fait, la société qui implémente Twitter, en fait, on utilise Google App, les applications Google pour leur mail. Et évidemment, le maillon faible étant l'humain, quelqu'un avait écrit un mot de passe un petit peu faible. Et du coup, quelqu'un a réussi à accéder au compte de la personne. Là-dessus, ils utilisaient Google Doc, donc ils ont accédé aux données internes de la société, notamment ce qu'ils veulent faire, leur stratégie, etc. etc. Bon, enfin, techniquement, les informations n'étaient pas très intéressantes, mais c'est vrai que finalement, autant dans une entreprise, il y a... Le truc classique en sécurité, c'est de pas mettre un système pour protéger, c'est d'en mettre 5 ou 6 l'un à la suite de l'autre pour que ça soit difficile de craquer les 6 en même temps. Et c'est vrai que en ayant une Google App ouverte à tout le monde qui a accès à Internet, finalement, la seule protection, c'est le mot de passe.
Une protection bien faible.
Ouais. Voilà. Bon, nouveau. On va revenir à Java là.
Bah peut-être quand même.
Allez. Ouais. Une vieille nouvelle qui est le garbage collector. En fait, jusqu'à présent, le garbage collector, il y en a qui savent travailler en multithread, etc., etc. Mais il y avait souvent soit des pauses complètes de la VM, c'est-à-dire on arrête tout, on vide les objets qui doivent être vidés, et ensuite on fait continuer l'application. Donc ça fait des pauses qui, dans certaines applications, sont pas acceptables. Soit il y avait d'autres approches, qui consommaient un peu, et donc, mais rien qui va être adapté aux dizaines de cores qu'on va avoir dans le futur proche. Évidemment, Sun essaie d'améliorer ça toujours de plus en plus. Et ils ont sorti un nouveau garbage collector qui s'appelle G1, qui n'a aucun rapport avec le téléphone du même nom. qui, en gros, en fait, je sais même plus les détails. Si je me souviens bien, ils ont encore multiplié. Dans les garbage collectors modernes, il y a la notion de nursery, ensuite d'objets jeunes et ensuite d'objets vieux. Et en fait, on voit, c'est que statistiquement, il y a des objets qui ont une durée de vie extrêmement courte, des objets qui ont une durée de vie un peu moyenne et des objets qui ont des durées de vie plus longues. Et en fait, en séparant ces objets-là et en les faisant bouger d'un endroit à l'autre, s'il y a besoin, ça permet de faire des garbage collectors qui ont des pauses beaucoup plus courtes parce qu'on se focalise sur un ensemble. Par exemple, la nursery, on vide tous les objets qui ont été utilisés juste pour un temps extrêmement court et pour après passer pour récupérer de la mémoire à coût relativement faible. Et je crois que G1 en fait pousse cette idée-là en divisant donc votre espace mémoire en plusieurs régions. Donc là, on n'aurait pas seulement trois régions, on aurait N régions qui sont finalement globalement générationnelles, mais beaucoup plus dynamiques. Bon, c'était pas très précis ce que j'ai dit, mais les détails techniques sont pas trop. Ok, les détails techniques sont pas trop là. Ce qui a fait un peu la sensation sur ce garbage collector, c'est que je pense juste par une erreur de Sun. Sun s'est dit, oula, bon, c'est un nouveau garbage collector, c'est pas super prêt. Donc ce qu'on va dire, c'est que, enfin, ils ont mis dans les show notes, ils ont dit, n'utilisez ce garbage collector que si vous avez du support Sun. Et en gros, les gens se sont dit, oula là, ça y est, Sun passe propriétaire, ils se sont fait racheter par Oracle, ça y est, ils vont essayer de faire du fric sur notre dos, blablabla. Bon, ils vont essayer de faire du fric sur votre dos, c'est le principe d'une société. Mais en fait, c'est juste que c'est un petit peu neuf. Nous, on a quelques clients qui ont essayé. Effectivement, ça crache un peu. Et donc, Sun voulait un petit peu se couvrir en disant « Attention, n'utilisez pas, c'est quand même expérimental. Et si vous voulez vraiment partir là-dessus en prod, prenez du support avec nous et on verra, on dédiera des ingénieurs pour aller avec vous. » En fait, c'était ça le principe. Et donc, depuis, ils ont enlevé ce warning-là pour être très honnête.
Et le G1 est disponible dans Java 6 Update 14. À part qu'il faut l'activer, mais donc il ne vient pas par défaut.
Okay.
Mais lorsque vous téléchargez le Java 6 Update 14, vous avez le G1 avec. Et il faut passer une ligne de commande, un tiret XX, etc.
Ouais, etc. C'est XX expérimental et après, je sais plus quoi.
XX Unlock Experimental VM Options. Voilà.
XXX, tu aimes le cuir.
C'est ça. Une autre chose que j'ai pas dit sur G1, c'est que, en fait, on passe en paramètre le temps idéal d'une pause. Donc, on veut pas que ça fasse une pause de plus d'une seconde ou 2 secondes ou 300 millisecondes, etc. Et basé là-dessus, et basé sur les collections d'objets que le garbage collector a, donc plus une seule région, mais plein de régions. Donc en fait, l'idée, c'est que le garbage collector va essayer de s'approcher le plus possible de votre temps de pause maximal et en décidant, bah tiens, je vais seulement garbage collecter cette région-là parce que je pense que c'est là où il y aura le plus de gains. Etc, etc. Donc, ils gardent des statistiques en disant, tiens, ces objets qui venaient de là, apparemment, ils doivent être virés rapidement et donc on va travailler sur celui-là d'abord. Ou alors, tiens, à ce moment-là, j'ai un peu de temps, je vais travailler sur une région qui est un peu différente.
Malin.
Hein. En tout cas, moi, je préfère ça à avoir à faire Maloc et puis, comment ça s'appelait, on sait là.
Bah, free.
29,90. Catastrophe.
Non, c'est que 29,99.
Free. C'était quoi ça, 29,99?
Mais non, mais c'est le prix, là, t'as les pubs free à la télé, 29,99.
Ouais, mais attends, moi j'ai pas le contexte.
Ah oui, t'as pas la télé? T'as pas la télé aux États-Unis?
Et moi j'ai pas de télé. Pas de télé en plus, donc pas de référence okay. Foireuse au pub,
bon.
S'il vous plaît.
Voilà,
ça c'est fait, je me suis pris une baffe. On va passer à une nouvelle particulière, ou peut-être deux ou trois, mais en tout cas une de Éric Lefebvre, hein, qui est un pro, presque un évangélisateur des méthodes agiles en France. Et donc, il voulait nous demander de parler de la conférence Agile 2009 qui se passe à Chicago du 24 au 28 août. Donc là, il va falloir se dépêcher. Je vais lire ce qui nous a donné. Hein. Agile 2009, conférence. C'est la conférence la plus importante dans l'année sur les pratiques de développement agile. Elle aura lieu donc cette année à Chicago du 24 au 28 août. La conférence ne s'adresse pas seulement à des coachs agiles ou des chefs de projet. Un tiers des participants se définissent comme développeurs ou responsables techniques. Et donc, ça se voit dans les sessions proposées, donc qui s'ouvrent à des choses un peu plus pour les débutants. Donc, parmi les activités qui peuvent intéresser les amateurs de Java, notons le track Developer Jam, dédié aux développeurs. Mais ces personnes seront aussi intéressées par Tools for Agility, qui est donc une autre track de la conférence. Sinon, focalisé sur les programmeurs, il y a Emergent Design and Evolutionary Architecture, Scala, Object Oriented and Functional Programming for the VM. no Groovy.
Il y a un des committeurs Groovy qui y va, et t'inquiète pas qu'il va faire ça, voilà. Sa pub.
Qui s'appelle How to Make Your Testing More Groovy.
Ah, oui.
Ensuite, Agile Ajax, The Google Web Toolkit Experience, Creating Habitable Code, Lesson in Longevity from Cruise Control.
Oh yeah, with the American accent.
Après, il y a d'autres tracks sur SOA, Coding Dojo, Ruby Tools, Cleaning Code, etc., etc. J'ai pas toutes les listées, je vais les laisser dans le show note. Sinon, si vous êtes à Chicago pour cette conférence du 24 au 28, restez du 1er au 4. On fait JBoss World. si vous êtes intéressé, vous allez sur jbossworld.com. Et je crois d'ailleurs que Spring Source, il y a un truc pas loin aussi.
Non. Je ne sais pas. c'est quand tu dis
Spring Source, vous n'avez pas un truc bientôt?
Ah si, mais c'est quand qu'en octobre là. Et là, c'est quand j'y passe World?
Ok. C'est 1er septembre.
Ah ouais.
1er au 4 septembre. D'accord. À Chicago aussi.
Donc en fait, du 19 au 22, si j'ai les dates correctes en tête, donc on fait effectivement Spring One America. Donc on fait un en Europe et un aux États-Unis, on alterne. Et en fait, cette fois-ci, il y aura également la conférence 2GX, Groovy and Grails Experience. Enfin, c'est une sorte d'acronyme. Et en fait, on fait... il y aura 4 tracks Spring et tout ce qui est relié à Spring, tout ce qui est outillage, etc. Et 4 tracks sur tout ce qui est Groovy, Grails, Griffon et compagnie en parallèle. Donc on a rejoint les deux conférences, Groovy, Grails, Spring, ensemble. Et c'est à la Nouvelle-Orléans. Je ne suis jamais allé à la Nouvelle-Orléans, ça doit être sympa.
Ah, c'est cool. Ouais. Là, vous m'invitez, mais je ne suis jamais allé non plus.
Ah ouais, bah écoute, ça devrait être bien.
Emmanuel, et sinon, est-ce que tu as des scoops ou pas pour le JBoss World? Est-ce qu'il va s'annoncer des trucs exceptionnels?
Sûrement. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop suivi. Ce que je sais, c'est que moi, je bosse pour faire une version bêta de JPA 2. Ça va être sympa. J'avoue que le gros travail, c'est au niveau de l'écriture de l'API, la Cratoria API, qui est une API orientée objet pour
La fameuse, oui.
Qui est un peu compliqué au premier abord, mais qui en fait,
et
on s'y fait assez
rapidement.
Il y a toujours
les trucs
après,
un peu magiques là, avec les underscores, là, dont Linda avait parlé dans un blog. Tu sais, il y avait...
Ouais.
Ah, c'est moche, ça.
En fait, c'est le métamodèle qui est généré, ouais. Un annotation processor.
Enfin, rien que de voir un underscore, là, ça me hérisse les poils, là.
Bah, écoute, si t'as mieux, tu proposes. Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Je sais pas, avec Groovy, on doit pouvoir faire un truc, on n'a même pas besoin de typage fort, on s'en fout.
ouais, c'est ça.
Non, mais justement, l'API, elle est, c'est TypeSafe Criteria API, elle est vraiment, justement, t'as plus de...
Elle est ceinture et bretelle.
Ouais, elle est ceinture et bretelle. Mais moi, comme toi, Emmanuel, je trouve qu'au premier abord, elle est quand même pas facile, quoi. Je sais pas si je l'utiliserais tous les jours quand même.
À mon avis, ça vient vite. Moi, au début, j'étais pareil, hein, un petit peu sceptique, et finalement, à l'utiliser, à écrire des exemples, ça vient assez vite. Mmh. À voir, on verra sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement une des API les plus typées, TypeSafe de Java au jour d'aujourd'hui. Et ça utilise aussi la notion de annotation processeur, qui est finalement générer du code basé sur le code qui est compilé. Et donc finalement, au lieu d'avoir un build system qui est obligé de générer des choses, c'est intégré à votre compilateur. Donc c'est plus vraiment de la... C'est toujours de la génération, mais c'est intégré nativement au niveau de votre compilateur. J'imagine un petit peu comme les modifications AST qu'on peut
dans
faire.
Dans Groovy, oui. Ouais, c'est dans le même genre, ouais. Ouais, effectivement. Bonne comparaison. Voilà.
Et sinon, oui, donc je travaille aussi à intégrer Bean Validation, JSF2 et puis donc JPA2 et Bean Validation ensemble dans JBoss AS 5.2 qui, j'espère, si tout va bien, on aura une release bêta ou alpha.
En 2011.
Comme ça. Quelque chose à montrer en... Non, quelque chose à montrer pour JBoss World. Voilà. Ouais. En fait, moi, ça tourne déjà sur mes machines, mais ça tombe sur des snapshots qui se basent sur des snapshots et des machins. Donc,
donc c'est encore du conference-driven development, quoi. Comme souvent dans l'open source.
Eh bien, figure-toi, Guillaume, que contrairement à toi, je fais ça de moins en moins.
Ah, d'accord. Ah, c'est toujours bien d'avoir quelque chose à annoncer, évidemment. Non, mais c'est rigolo, quoi.
Non, mais je suis bien content sur le... Parce que ce qu'on va probablement faire, à mon avis, c'est que... on va avoir la 5.2 qui sera pas Java EE6, d'accord, qui aura pareil les fonctionnalités intéressantes très vite, et puis après, ben, on complétera la notion de TCK dans une deuxième étape, quoi.
Mm-hmm. Et justement, est-ce que tu as des scoops là-dessus? Est-ce que c'est prévu pour un JBoss 6? Est-ce que c'est prévu pour
non. A priori,
à la fin de l'année, début 2010,
ça sera pas JBoss 6. Donc en fait, on va décorréler la notion de passer le TCK de la notion de nouvelle génération du serveur d'app. Et puis après, un des avantages qu'on a, c'est que comme on écrit un certain nombre de specs, et le TCK, bah, ceux-là, on va les passer d'office.
D'accord.
Puisqu'on aura la référence implémentation de Bean Validation et puis de WebBeans. C'est nous qui la faisons, donc là-dessus, on ne sera pas en retard. Mm-hmm. On peut pas, par définition.
Et puis toi, si tu es en train de bosser sur JPA2, en fait, il vous manque plus qu'après JB3.1. Et puis voilà, quoi.
Pareil, après, JB3.1, je crois que les gens, ils ont bien avancé de leur côté. Moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Et on travaille aussi à des modèles du bootstrap comme JB3.1, mais avec aussi une version programmatique de la configuration pour rendre ça un peu plus simple, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est dans le pipe. Ça, je pense qu'on aura une version pour la 5.2 là. Là où c'est un peu plus flou, c'est les servlets et des specs qui ont un petit peu évolué, mais qui sont pas au cœur des innovations. Et là-dessus, ça prend toujours un peu de temps de finir de l'implémenter et de passer le TCK.
Bon, pour la précision, l'implémentation de référence servlet, c'est Glassfish.
Ouais.
Mais justement, servlet 3, il y a quand même beaucoup de nouveautés avec le modèle asynchrone et tout ça. Enfin, je pense que ça doit pas être super simple à implémenter, quoi. Je sais pas où en est JBoss, mais en plus, l'aspect que servlet 3 a pris un peu de retard.
Je sais pas. En fait, bon. C'est Rémi, donc le gars de Tomcat là, qui développe ça sous JBoss Web. Je ne sais pas où il en est, pour être très honnête. Donc, voilà.
D'accord.
Cool. Bon, on va arrêter de... Pourquoi on parlait de ça, au fait? Bon, allez, les DSL. Donc, on va parler des DSL, le Domain Specific Language. En fait, beaucoup en parlent, et c'est vrai que c'est difficile de trouver une définition qui est compréhensible. Donc, je vais essayer de me lancer. Je vais essayer de vous expliquer comment on fait ça un petit peu en Java. Et puis après, je vais ouvrir le débat avec mes collègues cascodeurs, et puis on va voir ce qu'un langage dynamique offre de plus pour ce genre de choses, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'un DSL ? C'est finalement, pour un mettre simplifié, c'est regarder du code ou regarder une API et pouvoir la lire de manière extrêmement simple et comprendre ce qu'elle fait. Presque comme si vous lisiez de l'anglais.
Ou du français.
Ou du français, oui. C'est vrai qu'on peut mettre des accents dans les méthodes.
Ah oui, bien sûr.
Java, ouais. C'est UTF-8. Ouais. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai regardé du code en français, ça me faisait bizarre. Mais
bon. Ouais, en plus, quand tu utilises les getters et les setters, tu mets set prénom et get prénom, ça fait bizarre.
C'est vrai.
Tu mélanges l'anglais et le français à cause de la convention JavaBeans. Bon. Ouais.
Alors, il y a deux types de DSL. Il y a les DSL dits internes et les DSL dits externes. Alors, je pense qu'on va se focaliser sur les DSL internes, mais juste pour que vous connaissiez la différence. Un DSL interne, c'est vraiment écrire du Java, mais essayer de le rendre le plus humain possible. Et un DSL externe, c'est finalement écrire dans un fichier des choses et puis parser ça dans votre code pour après l'utiliser. Donc, par exemple, un utilisateur pourrait taper dans une grammaire spécifique à votre langage des choses du genre Emmanuel, ensuite une date, et en fait vous savez que quand il y a une date après un prénom, c'est l'anniversaire ou des choses comme ça.
Super DSL,
ouais. Bah attends, ouais. C'est pour éviter de rater les anniversaires des gens, c'est utile.
Pas mal.
Non, mais tu as peut-être des exemples un peu plus intéressants de DSL externe.
Ouais, je pourrais. Enfin, ou interne, là, en Groovy, par exemple, je pourrais en citer quelques-uns tout à l'heure. Si
alors, les clés pour faire un DSL par rapport à une API normale, quelle est la différence entre une API normale et un DSL? C'est la readability, le fait que ça soit facilement lisible et compréhensible et utilisable. Donc on appelle ça, en anglais, on appelle ça la Fluent API. En gros, une API qui se lit d'un mot à l'autre. Notamment, une des choses à faire, c'est ne plus utiliser la convention getter-setter pour que, au lieu de dire, par exemple, mailer, .setSender.setTo.setBody, vous faites mailer.sender et puis vous mettez votre email .to, vous mettez la liste des emails .body et là vous mettez le corps du texte. Donc déjà, ça se lit de manière plus simple. La deuxième chose qu'on fait, c'est que au lieu d'avoir à chaque fois dire mailer dot et puis l'opération qu'on est en train de faire, on fait on utilise ce qui s'appelle le chaining method pattern, qui en gros dit, si votre méthode elle est faite pour retourner rien de particulier, retourner void, et ben retournez l'objet lui-même. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir à dire mailer.to, ensuite mailer.body, vous faites mailer.sender.to.body. Donc vous éliminez d'avoir à réécrire mailer 2, 3, 4 fois, et puis vous éliminez les points-virgules. Et du coup, le code se lit de manière plus naturelle. Une deuxième chose qui est importante, c'est la notion de contexte. C'est-à-dire que, en gros, quand on exécute une... Alors, c'est un peu plus compliqué, j'ai pas d'exemple en tête, mais en gros, mettons que je sois en train de définir une campagne de marketing. Donc, je définis ma campagne, donc campagne.name, ensuite, je vais peut-être dire define email. Et define email va me permettre de définir les choses spécifiques à l'email, donc le sender à qui c'est envoyé, le corps du texte, etc., etc. Et en fait, quand je suis dans define email, j'ai la liste des opérations qui sont contextuelles à la définition de l'email. Et ensuite, une fois que j'ai fini la construction de l'email, par exemple en utilisant une méthode qui s'appelle .build ou .send, je reviens au contexte de la campagne et je vais pouvoir continuer à chaîner les opérations. Et donc, en utilisant de manière intelligente les indentations, on a un code qui est extrêmement lisible, qui ressemble, en tout cas en ce qui me concerne, qui est plus lisible que du XML. Donc finalement, c'est un peu paradoxal parce qu'on a du Java qui devient presque plus lisible que du XML. Et en plus, on a la capacité à mélanger, à avoir du code un peu compliqué, mettre s'il y a vraiment besoin, faire des loops, etc. etc. Voilà, donc c'était ma définition. Et donc ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il est parfaitement possible de faire des DSL en Java. Alors j'avoue que c'est pas évident. Moi, j'ai joué un peu là-dessus pour... sur Hibernate Search. Hibernate Search, en fait, permet de définir les mappings entre l'index et le modèle objet en utilisant des annotations. Et puis, les gens m'ont toujours demandé, est-ce qu'on peut avoir un truc sans annotation, et notamment, est-ce qu'on peut faire du XML? Bon, moi, j'aime pas trop le XML et du coup, je suis arrivé avec cette proposition qui est d'utiliser un DSL, donc finalement une API qui est spécifique à la définition du mapping. Donc on est là, on dit entité, on donne le nom de la classe, ensuite .index, et puis donc elle va être indexée, .property, je sais pas, la propriété Toto, ou non. Et ensuite, sur la propriété, on peut définir les champs, etc. Et en fait, l'API propose les méthodes à utiliser dans le contexte. Donc là, je suis au niveau d'une propriété, donc je peux ajouter des champs dans mon index. Si je suis au niveau de l'entité, ben, je peux faire des choses différentes, etc., etc.
Oui, mais là, la question que j'ai pour... Alors moi, je suis un peu novice là-dedans. C'est que là, tu parles de l'affluent API, mais quelle est la grande différence entre l'affluent API et puis le DSL alors?
Moi, mon impression quand même, c'est que c'est un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que l'affluent API, c'est ce que tu peux faire de mieux en Java pour que ça se rapproche le plus d'un vrai langage spécifique métier, voire un langage externe. Mais bon, c'est un pattern, si tu veux. C'est un pattern d'implémentation pour faire des DSL en Java. Mais ça ressemble toujours beaucoup à du Java pur sucre malgré tout. Mais tu as quand même du code plus lisible malgré tout.
Ouais, il y a encore les parenthèses, il y a encore les virgules entre les paramètres, des choses comme ça, d'accord? Ouais. Parce que Java, quand on appelle une méthode, eh ben, il faut ouvrir une parenthèse, il faut passer les paramètres qu'on doit passer et puis fermer les paramètres. Après, tu peux décider de, entre guillemets, nommer les paramètres en disant, bon, bah, c'est pas grave, quand l'utilisateur, il appelle un mailer, au lieu de passer le paramètre from to le body, et avec donc trois paramètres qui sont pas vraiment lisibles, je vais juste avoir une interface qui va être dédiée au mailer et qui dit, ben, donne-moi le from, retourne l'objet, donne-moi le to, retourne l'objet, donne-moi le body, retourne l'objet. Donc quelque part, on utilise une méthode à un paramètre avec un nom intéressant, nom de méthode intéressant, pour pallier au fait que Java n'a pas de paramètre nommé, par exemple.
Mmh. Et c'est là que Groovy entre en scène et qui va sauver toute la planète. Parce qu'en fait, Groovy, donc la syntaxe du langage dynamique Groovy, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, faut bien se gargariser un peu de temps en temps, propose donc une syntaxe qui dérive directement du langage Java. Donc tout ce qui est Fluent API, etc., évidemment, c'est tout à fait faisable en Groovy. Mais en plus, on a quand même des choses qui permettent d'aller plus loin. Déjà, alors, d'une part, par exemple, on peut omettre les parenthèses et aussi utiliser, tu parlais de paramètres nommés, tu peux utiliser des paramètres nommés. Donc tu peux dire... par exemple, il y a des chercheurs américains là qui font des recherches sur la résistance du corps humain au traitement antimalariaux. Et ces gars-là ont écrit un DSL en Groovy pour exprimer, pour faire des nouvelles simulations et vérifier que tel traitement est plus intéressant que tel autre, etc., avec telle posologie. Bon. Et en fait, par exemple. L'exemple que je prends assez souvent quand je fais des présentations sur les DSL, c'est justement un exemple qu'ils ont fait. Donc c'est en anglais, mais je vais le traduire en français à la volée, on va dire. En Groovy, je peux dire « prends une pilule de chloroquinine dans 6 heures ». Là, je le dis comme j'écrirais la phrase. Et en fait, en utilisant un mix de paramètres nommés et non nommés, en fait, prend, c'est un appel de méthode, ensuite je mets un espace, je ne suis pas obligé d'ouvrir une parenthèse, parce que les parenthèses sont optionnelles, et ensuite je peux écrire prend, donc espace point, un point pilule, pour dire une pilule, parce que dans Groovy, on peut rajouter par exemple des propriétés sur les nombres, virgule, à deux points telle heure, et virgule, deux points chloroquinine. Donc il y a un petit peu de ponctuation, mais une ponctuation comme on aurait même éventuellement pu l'écrire si on avait écrit ça en français. Et ça ressemble du coup, donc à part le point entre 1 et pilule par exemple, mais à part cette ponctuation-là, sinon tout le reste c'est presque de la ponctuation qu'on pourrait utiliser en français normal. Et en plus, ça se lit tout seul très bien. Et il n'y a pas besoin de faire forcément de chaînage d'appels de méthode, ou par exemple de fermer un contexte, comme tu disais Emmanuel, avec une méthode end ou build ou send. Mais on peut, enfin, on a en tout cas beaucoup plus de possibilités en Groovy pour faire des DSL grâce à tout un tas d'aspects différents. L'aspect dynamique qui fait qu'on peut rajouter des propriétés sur les nombres, les paramètres nommés, le fait que la syntaxe est plus légère, pas de parenthèses, pas de point-virgule, enfin c'est optionnel. Le fait aussi qu'on peut omettre les types, mais tout en ayant quand même des objets vraiment typés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Par exemple, la différence aussi entre les scripts et les classes, c'est-à-dire en Groovy, on peut écrire un script, c'est-à-dire une suite d'expressions sans avoir à écrire public, static, void, main, string, args, blablabla. Donc il y a tout un tas de techniques qui permettent d'écrire des DSL très très lisibles en Groovy et qui vont plus loin que simplement les API fluentes, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, les API fluides peut-être même, de Java.
Un autre outil que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est effectivement quand on parlait d'ouverture et de fermeture de contexte au niveau Java, où quelque part on a besoin d'une méthode qui dise bon, c'est bon, j'ai fini pour ce truc-là. Donc des fois on peut trouver un nom qui est totalement naturel et ça se passe très bien. D'autres fois, bon, ça se passe un peu moins bien. En Groovy, on peut utiliser une closure, par exemple.
Exactement.
En disant, quand j'ouvre ma closure, donc j'ouvre mon accolade, qui est un peu bizarre, mais finalement, elle se ferme et je sais exactement dans quel contexte je suis. Un truc, par contre, que je trouve sympa en Java et qu'on n'a pas en Groovy, évidemment, c'est que, évidemment, le compilateur, il m'aide. Ou plutôt, mon IDE, il m'aide. Je peux taper des choses et je sais exactement ce qui va être après. Tandis que dans un langage... dans un langage dynamique, je ne vais pas forcément pouvoir faire de la complétion de méthode de manière
En fait, tu sais, les IDE, ils deviennent quand même assez intelligents, même avec les langages dynamiques. Et par exemple, si tu utilises IntelliJ IDEA, pour certains des DSL qu'on a, comme par exemple, on a ce qu'on appelle par exemple le Swing Builder, donc c'est un DSL pour écrire des interfaces Swing, où en fait, l'IDE t'indique, oui, ça c'est disponible, ça ne l'est pas, donc il met un petit trait en dessous pour te dire, ça je ne suis pas sûr que ça existe. Et donc, tu as quand même tout un tas d'indices, même si il ne va pas te montrer une erreur de compilation, parce que ça pourrait très bien être valable au runtime, et il t'aide beaucoup, et il peut te proposer de la complétion, par exemple. Donc, des IDE qui sont au courant de ce que fait ton DSL, peut tout à fait te proposer de la complétion. Et justement, par exemple, là, les gars de JetBrains, donc ceux qui font IntelliJ IDEA, et donc à voir si on va pouvoir le généraliser et l'utiliser, le proposer aux autres qui font des IDE, comme NetBeans et Eclipse, ils sont en train de faire un DSL définissant des DSL. Et donc, on pourrait avoir en fait un DSL quoi, qui va dire voilà, dans mon DSL je crée telle méthode, je peux appeler telle autre méthode dans telle closure, etc. Et en fait vraiment décrire aussi les types de retours, etc. pour qu'il y ait de la complétion de code et tout ça.
Donc, ouais, mais c'est pas en teller ça ? Quelle est la différence du coup entre une grammaire ?
Non, en fait ce sera pas avec en teller, ils sont en train de regarder.
Non, mais c'est conceptuellement, ouais. C'est la même chose, non ?
Oui, ou c'est comme, je sais pas, un schéma XSD pour du XML, ou etc. Oui, c'est une manière de définir ta grammaire. Le DSL, c'est la grammaire pour un autre DSL, quoi.
C'est pas leur MPS, non ? C'est pas MPS ?
Non, là, c'est... Oui, il y a MPS, donc ça, c'est effectivement une chose. Ils ont sorti la version 1.0, là, je crois, non ? Il me semble avoir vu passer ça. Donc MPS qui est Meta Programming System, qui est un outil...
Ah si, c'est ça, hein, c'est JetBrains Meta Programming System.
MPS, JetBrains MPS, qui est un outil en fait qui te permet de décrire des DSL donc dans leur interface, dans leur espèce d'IDE, et qui en fait derrière génère également l'IDE qui va avec la complétion qui va avec, etc. Donc tu n'écris pas que le DSL, mais tu écris tout l'environnement, y compris l'environnement de développement. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Ça a l'air, a priori, encore assez compliqué, peut-être pas très très intuitif à utiliser, mais en tout cas, c'est des travaux qui sont très 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 intéressants à suivre et très prometteurs.
Mais ça, typiquement, c'est un DSL externe, c'est-à-dire que on définit une grammaire, alors d'une manière ou d'une autre, soit par du clic du wizard, soit par ce DSL qui définit des choses, et après on expose ça à l'utilisateur ou à la personne qui doit rentrer ces informations pour l'utiliser. Moi, ce que je trouve élégant dans les DSL internes, c'est qu'on utilise le propre langage en fait.
Ouais,
soit tu es en Groovy,
ouais.
soit tu es en Java. Et tu multiplies pas le nombre de grammaires en disant putain, je sais plus dans quel contexte je suis. Tu es dans ton contexte de développement classique, Groovy, Java, Scala, etc.
Ouais.
Et par contre, ton truc est presque utilisable avec une petite formation. Ton utilisateur non informatique, tu vois, va pouvoir te rentrer des infos.
Ouais, effectivement. Et en tout cas, dans les cas d'utilisation de personnes, en tout cas, enfin de sociétés qui ont choisi d'utiliser Groovy pour les langages métiers, les DSL, on a quelques exemples comme ça. Un gros assureur américain, par exemple, qui dont les actuaires en fait sont capables eux-mêmes d'écrire les règles métiers du module de calcul de risque sur les polices d'assurance, par exemple. Ou encore, là il n'y a pas longtemps, j'ai fait un peu de consulting pour un client allemand qui gère une plateforme d'octroi de crédit qui est utilisée par à peu près 10% des banques européennes qui traitent 1 milliard d'euros de crédit par mois, quelque chose comme ça, et qui en fait ont utilisé aussi Groovy pour définir des DSL, c'est-à-dire que les... donc là par contre c'est les développeurs qui écrivent les règles, mais on leur donne des règles, les différents clients de cette plateforme, enfin de cette société, donc de cette plateforme, proposent des règles de la forme, enfin donnant un contexte, si le client a tel âge, alors je ne peux pas lui octroyer ce crédit, etc., une sorte de XNL si on veut, et c'est un langage qui a été écrit de manière très très lisible, given, on donne le contexte, when, selon une certaine condition, then, alors j'octroie ou non le crédit. Les banques envoient ces règles-là et elles sont codées dans un DSL pour qu'elles soient beaucoup plus lisibles et qu'après, je dirais, pour aussi des raisons d'audit, que le client puisse bien vérifier que ces règles, de par leur lisibilité, correspondent bien à ce que lui a demandé au niveau des besoins qu'il a exprimés, quoi. Donc on a différents cas qui sont très très intéressants, de sociétés qui ont amélioré finalement la communication entre un client, un fournisseur, entre MOA et MOE, entre utilisateur final et développeur, etc. Donc moi l'aspect lisibilité et l'ouverture en fait de la discussion et de la compréhension commune de certains concepts métiers, c'est vraiment les atouts clés des DSL dans nos applications d'entreprise, quoi.
D'accord. Donc si on doit résumer, en fait un DSL, ça a l'air magique, mais c'est finalement en tout cas quand vous voulez démarrer, c'est la concaténation de quelques patterns simples et des règles de bon sens sur le nommage de vos méthodes. Donc il y a la notion de chaining method, donc retourner this au lieu de retourner void pour que la personne puisse taper point 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 et appeler les méthodes l'une après l'autre. La notion de builder, le builder pattern qui permet de récupérer plusieurs paramètres et ensuite de dire bon c'est bon, je build cet objet, j'exécute cet objet et je ferme son contexte. Et puis la notion d'utiliser des noms intelligents et donc pas de getter, pas get machin ou set machin. Donc finalement s'affranchir un peu des conventions Java là-dessus pour rendre le code un peu plus lisible. Ça c'est si vous restez en Java. Après effectivement en Groovy ben, vous avez plus de flexibilité, notamment ce que disait Guillaume, donc appeler des méthodes sur des nombres, utiliser des paramètres nommés. Etc.
Ouais, tout un tas de techniques, effectivement.
Et donc, essayez en fait, c'est assez intéressant. Prenez une API et essayez de la rendre fluente.
Ouais, il faut qu'elle soit lisible. Si on arrive à lire le code en oubliant les parenthèses, les points et que ça sonne comme une phrase en français, en anglais, là on a fait un gros progrès en termes de lisibilité.
Voilà. Et donc, si vous réussissez, vous donnez 1 euro casse-côte. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qui a flotté dans mon esprit ces quelques dernières années, mais sans vraiment trop y rentrer. C'est vrai que essayer de construire une API et la rendre fluide, c'était assez intéressant. C'est difficile en Java parce qu'il faut créer plein de méthodes. enfin plein d'interfaces potentiellement, et ces interfaces vont partager beaucoup de méthodes, mais on peut pas vraiment réutiliser l'héritage parce que le contexte ne s'y prête pas, et donc ça demande un peu de duplication, des choses comme ça qui sont pas terribles quand on écrit l'API. Par contre, à utiliser, c'est un vrai bonheur.
Ça mérite le coup d'œil.
Ça me paraît un bon épisode. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit
alors, coup alors, attends. Ben oui, bien sûr, le scoop tout chaud, le scoop bouillant, le scoop qui a à peine quelques minutes. Pendant que vous parliez des DSL auxquels je ne connais pas grand-chose, et comme je m'ennuyais, je viens de créer un compte Twitter pour les cartes. Donc maintenant, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter @lescastcodeurs.
Très bien, c'est toi qui le maintiens parce que parce que j'ai déjà du mal de temps en temps à publier sur le mien. Je bloque plus trop. Très bien, c'est toi qui. Merci de nous avoir suivis. Et puis, une prochaine fois, on va essayer de mettre en place une interview.
L'interview de Vincent à la plage, tu veux dire?
Ouais, Vincent à la plage avec sa maîtresse.
Oh là là, mais vous êtes terrible.
Ouais, non, il faudrait que je contacte Romain Guy.
Ah ouais, ce serait cool. Android. Ça.
Romain Guy, d'Android. Pour qu'il nous parle d'Android versus Google Chrome OS.
Bon, ben, merci bonne à tous et à puis à bientôt. Et
bonnes vacances.
Ciao.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.